Eh oui, il est temps de rejoindre Gérard Angel et son invité posé sur le sofa du restaurant L'Institution pour les coulisses du Grand Lyon. Bonjour Gérard.
Bonjour Richard. Jean-Louis Touraine, bonjour. Vous êtes député et ça fait même 10 ans que vous siégez à l'Assemblée nationale et à 71 ans, vous avez décidé de repartir pour un troisième mandat. Moi, je voudrais d'abord vous demander, vous êtes irremplaçable que vous repartez à nouveau alors qu'il y en a d'autres qui auraient bien pu prendre votre place ?
Non, pas du tout. Je pense que... Se présenter pour un troisième mandat, ce n'est pas s'incruster du tout dans une assemblée comme celle-ci. Je ne serais sûrement pas aussi favorable à ceux qui se présentent pour la 9e fois, par exemple. Non, je crois qu'effectivement, on se rend compte que cette activité de député nécessite un temps de rodage dans le premier mandat et qu'ensuite, eh bien, on peut effectivement réaliser des choses. Et il me semble qu'aujourd'hui, j'ai... l'impression d'avoir pu faire avancer pendant les dernières années des domaines dans la santé, dans les affaires sociales, dans les questions de société. Et j'ai encore des choses que je souhaite faire bouger pendant encore un petit nombre d'années. Bon, vous savez, 71 ans, c'est l'âge où beaucoup sont dirigeants de clubs sportifs, sont responsables d'associations. Quand on se sent en bonne forme, pourquoi ne pas aussi être impliqué en politique ? Et d'ailleurs, vous le savez très bien, il y a nécessité de représenter le peuple, c'est la fonction du député. Alors il faut qu'il y ait des représentants des jeunes populations et des représentants de ceux qui sont moins jeunes, qui, vous le savez, sont aujourd'hui de plus en plus nombreux avec l'augmentation de la longévité.
Jean-Louis Touraine, vous nous avez dit que vous avez quelques projets encore à mener à bien. On va en parler, mais tout de suite, vous avez été professeur de médecine, grand professeur de médecine. Vous avez été un spécialiste reconnu dans plein de domaines, l'immunologie, les greffes, le sida. Vous êtes aujourd'hui à la retraite. J'allais vous demander, c'est plus facile de sauver des vies que de voter les lois parce que vous êtes parti, ou c'est plus facile de voter des lois que de sauver les vies? Puisqu'il y en a un, on vous a dit, il faut partir à la retraite, et l'autre, vous restez bon pied, bon oeil.
Alors, je ne suis pas dans une retraite absolue, puisque j'ai gardé une activité de recherche médicale, recherche laboratoire et recherche clinique. Et ça contribue à me maintenir à l'esprit très éveillé, très curieux, et être en contact avec les jeunes chercheurs pour les progrès, en développant des nouveaux traitements pour la sclérose en plaques, pour le diabète, pour des maladies rénales et pour des maladies immunologiques. Bon, c'est quelque chose d'enthousiasmant. Donc, je pense que toute ma vie, je continuerai à m'intéresser à cela. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, je passe le plus clair de mon temps à mon activité de parlementaire, la moitié à Paris, à faire les lois, ou à les évaluer, et la moitié à Lyon, dans ma circonscription, à voir les habitants de cette circonscription.
Alors parlons-en, Jean-Louis Touraine. Vous nous avez dit juste au début de cet entretien que vous aviez encore des projets à mener à bien. Alors c'est quoi vos grandes idées que vous voulez mener dans les 5 ans qui viendront si vous êtes réélu député en juin prochain ?
Alors sur le plan de la santé, il y a eu beaucoup de choses de faites récemment. On a diminué certaines inégalités. On a commencé à résorber certains déserts médicaux avec maintenant 1000 maisons de santé.
On augmente le numerus clausus, ça vient d'être décidé ces jours-ci. Ça, c'est bien.
C'est très bien parce qu'on manque non pas tellement aujourd'hui de médecins, parce qu'il n'y a jamais eu autant de médecins qu'aujourd'hui, mais les besoins sont croissants. Mais on va en manquer demain parce que la formation des médecins des dernières années a été en nombre insuffisant, et il est clair qu'il faut 10 ans pour former un médecin et un peu plus de 10 ans pour qu'il s'installe effectivement dans beaucoup de cas. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour un horizon de 10 ans, vous voyez. Donc il est important d'augmenter ce numerus clausus, faute de quoi on est obligé de faire appel à des médecins formés à l'étranger, parfois très bien, mais parfois de façon moins contrôlée que dans les universités françaises.
Dites-moi, parlons un peu de politique politicienne. Alors, vous êtes membre du Parti Socialiste. Ça ne vous empêche pas de soutenir Emmanuel Macron, si j'ai bien compris, si je vous ai vu à différentes réunions. Est-ce que vous ne craignez pas que vos petits camarades du PS vous virent comme ils ont menacé ceux qui soutiennent Emmanuel Macron ?
Alors, premièrement, je n'ai pas encore fait un choix. C'est même la première fois qu'aussi près d'un scrutin pour les primaires de gauche, je n'ai pas encore un choix.
Vous voterez ou pas pour les primaires de
gauche ? Je voterai pour les primaires de gauche. Je voterai. Donc je n'ai pas encore fait de choix. C'est vrai que parmi les options, les candidats des primaires de gauche comme Emmanuel Macron représentent pour moi des possibilités que je n'exclus nullement. Mais pour autant, il me semble qu'effectivement, si dans les primaires, il n'apparaît pas quelqu'un qui rassemble d'une façon crédible et qui soit susceptible d'être au deuxième tour des élections présidentielles, alors bah, il vaut mieux chercher à la marge quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui lui a des valeurs comparables, dont j'ai suivi le parcours quand il était ministre, et comme vous le dites, au meeting duquel je suis allé, comme d'ailleurs je suis allé à des meetings de Manuel Valls et d'autres des candidats, des anciens ministres qui sont aujourd'hui candidats. Donc j'écoute partout, je vais assister avec beaucoup d'intérêt aux trois débats qui vont se développer, et c'est là où je prendrai ma décision.
Et est-ce que vous serez au meeting que M. Macron a décidé de faire à Lyon début février ?
Je pense que oui, de même que je vais au meeting des autres candidats, et celui de Emmanuel Macron, sûrement. Et je ne crains pas d'être... Si je prends cette option, hein, ce qui n'est pas encore fait dans mon esprit, mais si je la prends, je ne crains pas d'être exclu pour une bonne raison. C'est que je sais que dans le Parti Socialiste, autant quelquefois, on décontenance vraiment beaucoup nos spectateurs par des prises de position étonnante, autant au bout du compte, in fine, la raison l'emporte.
Avant de nous quitter, je m'adresse au professeur de médecine, au médecin que vous êtes. Alors, l'EHPAD qui a eu des problèmes avec 11 décès et je ne sais plus combien de dizaines de personnes qui ont contracté la grippe, c'est dans votre circonscription. Donc, vous la connaissez, cette EHPAD Berthelot, particulièrement bien. Comment vous expliquez ce qui s'est passé, cette hécatombe ?
C'est quelque chose de dramatique et qui rappelle, s'il était nécessaire, à toute la population que la grippe peut être une maladie très grave. Et je crois que les gens ont trop oublié. Je rappelle la grippe espagnole qui a décimé autant que la Première Guerre mondiale en son temps. Et d'autres épisodes de grippe ont également eu une mortalité notable. Bien sûr, ce sont les personnes les plus fragiles, comme les personnes âgées, qui payent le plus lourd tribut. Mais il y a aussi parfois des décès chez des personnes plus jeunes, notamment chez des personnes malades. Moi, ce que je rappelle à l'issue de cet épisode, c'est qu'il nous faut en tirer des leçons pour l'avenir. Et une des premières leçons, c'est de se rappeler que ce virus est véhiculé par tout le monde, entre les personnes âgées, mais aussi par l'ensemble des personnels qui s'occupent d'elles, comme des personnels dans les hôpitaux. Et donc, il faut sortir de cette situation actuelle où la vaccination n'est pas assez systématique chez les personnes qui s'occupent de personnes âgées ou de malades immunodéprimés. Donc il faut qu'il n'y ait plus 30% des personnels vaccinés, mais bien que ce soit systématique, et donc plus de 90% des gens ne véhiculent pas le virus, parce qu'on le sait insuffisamment, mais on peut être porteur du virus de la grippe sans avoir la maladie. Et à ce moment-là, bien sûr, on le transmet à beaucoup de monde.
Et est-ce qu'il faudrait rendre cette vaccination obligatoire pour les soignants ?
Alors j'ai utilisé le terme systématique, ça me paraît peut-être un petit peu moins brutal qu'obligatoire, laissant une petite part pour quelques objecteurs de conscience. Mais il faudra vraiment que l'immense majorité se vaccine et que les autres se mettent en marge de leur activité au moment où ils risquent de transmettre le virus.
Eh bien, je pense qu'on vous aura entendu, Jean-Louis Touraine. Je vous remercie.
C'était les coulisses du Grand Lyon sur Diaz Radio avec Gérard Angel, en partenariat avec lyonmag.com.